Bonjour et bienvenue au 1A Club, le podcast BD bimensuel caféinomane.
Hello.
Salut Thio, comment vas-tu depuis moult temps?
Ouais, pas tant que ça quand même, ça fait juste un mois.
Ouais, bah c'est-à-dire que hein, avec tout ce que t'as à peine le temps de lire les BD que je te refile. Hein. Donc, je sais que t'es un peu surbooké. Nous avons un épisode sympathique aujourd'hui, on va dire varié.
Varié.
Voilà, et avant de démarrer, je voudrais rapidement remercier les personnes qui ont parler de nous, qui nous ont laissé des commentaires sur notre blog. Sur iTunes, on n'a pas eu de nouveau, mais c'est pas grave, on va faire comme si. Donc d'abord, je vais remercier Seb Choc qui nous dit « Vous avez trouvé le bon rythme et le bon ton en ce qui me concerne. Bravo et à la prochaine émission. » Bah, ça fait plaisir, vraiment très plaisir. Ça veut dire qu'on a chopé la patate, on n'est plus des mouligas comme on était au début. On s'est trouvé nos mots, on hésite moins. Bon, je coupe les « e » au montage aussi. Hein. Je crois que nos émissions seraient deux fois plus longues si je ne coupais pas les « e » au montage.
Quel talent.
Ouais, je sais, c'est comme ça.
Mais quand tu me dis ça, moi je savais pas, du coup là je suis presque à deux doigts de pleurer.
Ouais, mais toi c'est parce que tu nous écoutes même pas, je suis sûr.
J'en ai écouté, c'est voilà. Faux.
Moi je m'écoute, j'ai pas le choix parce que je fais le montage, mais c'est vrai que j'avoue que en théorie je ne m'écouterai pas non plus. Mais bon, je voulais aussi remercier donc Béran. Donc c'est un vieux commentaire du blog, mais je voulais en reparler parce que monsieur Béran, le pauvre. Alors on dit peut-être Béran, j'en sais rien, mais c'est les choix d'internet au niveau des prononciations, qui nous dit à cause de vous, je me suis mis aux comics Marvel DC. Déjà, franchement, c'est vache de notre part. Et surtout, avoir un hélice, 6 volumes de transmettre plus Planetary. Ma carte bleue a eu un peu de mal à supporter, mais qu'est-ce que c'est bon. Eh ben oui. Merci d'avoir dépensé tes sous grâce à nous. Ça veut dire qu'on sert à quelque chose, que l'industrie de la bande dessinée va nous aimer, qu'ils vont bientôt nous envoyer des milliers de BD qu'on n'aura plus à les acheter.
Mais après, il faudra les stocker.
Ouais, il faudra les stocker. Voilà, donc on fera un podcast sur le bricolage pour qu'on nous offre un entrepôt.
Un bricolage suédois, peut-être, on pourrait demander.
Voilà, on verra ça. Et donc, Béran a fait un article sur son blog qui est fort sympathique, où il fait des petites BD avec des dessins simplistes. Où il raconte les anecdotes de sa vie de tous les jours avec sa famille. Moi, je trouve ça très marrant. Donc bon, c'est pas du grand art, mais moi, ça me fait rire. Et bah, sur son blog, il fait aussi des critiques de BD très intéressantes, dont une de Planetary, dans laquelle il nous cite. Et ça m'a fait énormément plaisir de retrouver le nom du podcast ailleurs. On continue enfin sur les autres news. Je voulais parler d'un quelque chose qui s'appelle Raging Bull. Raging Bull, c'est un peu le 1A Club, mais où les gens peuvent venir.
En vrai.
Voilà, le 1A Club en vrai, avec du public et tout.
En direct.
J'ai découvert...
Avec les E et, voilà. Et les Blancs.
Les E, les Blancs et de la bière. En tout cas, on se boit l'apéro à celui qui a lieu à Marseille. Nous, on a du café, c'est vrai.
On a du café, quand même.
Ouais, et du citreur.
Oui, qui n'est pas présent aujourd'hui.
Oui, c'est vrai. Il faudra aller le chercher. Et donc, le Raging Bull, c'est tous les troisièmes jeudis du mois. Il y en a un à Toulon, il y en a un à Bordeaux. Et qu'est-ce que c'est que ce rire? Vas-y, lâche-toi.
Alors, le troisième jeudi du mois, ça fait penser à une sorte
de... Ouais, à notre rituel
de samedi. À notre rituel du premier samedi du mois.
Ouais, mais ça n'a rien à voir, c'est même pas la même date. Bref, donc c'est à Toulon, à Bordeaux et à Marseille. Enfin, il y a une sélection de BD qui est faite. Des chroniqueurs en parlent, ils sont trois la plupart du temps. Et le public, invité, on discutait avec eux autour d'un verre. C'est super sympa, c'est une bonne ambiance. Moi, j'ai découvert quelques trucs qui m'ont donné envie la dernière fois. Donc renseignez-vous, ils ont un site, on mettra tous les liens de toute façon sur notre sur le blog. Et enfin, dernière chose, un grand merci à Antoine Boza, surnommé Toanito sur le web, qui nous a fait un peu de publicité, bon, parce qu'on parlait un peu de lui aussi. On a dit un petit peu de bien, il me semble, hein, de son ouvrage.
Pas trop, on était assez dubitatif par rapport
réservé,
à la production qu'il a faite.
Bon, je vous invite à écouter une de nos émissions précédentes pour savoir ce qu'on a pensé de son travail, qu'il est trop bien. Et nous enchaînons de suite avec la suite des opérations. Nous arrivons donc sur notre presque neuf. Et nous allons parler de Ultimate Avenger numéro 3. par c'est Marc Millar et c'est ça, c'est Marc Millar, je dis pas une connerie.
Marc Millar, ça n'a pas changé, c'est le dessinateur qui change.
Non, c'est Carlos Pacheco toujours.
Carlos Pacheco et c'est la saison dernière de Pacheco.
Voilà, c'est bah, de toute façon c'est la fin de l'arc narratif. Alors de quoi que ça nous parle, mon cher Thio ?
Donc du fils de Captain America, Crâne Rouge, qui est apparu il y a de cela quelques numéros. Il est ressorti un petit peu du néant.
Il... Oui, il est sorti au numéro 1, quoi.
Oui, non, enfin, oui,
oui. Donc, ouais, du lancement.
Voilà, donc c'est sorti un peu de nulle part. Et puis c'est un gros méchant qui n'a pas de remords, qui n'a pas de pitié et qui tue tout le monde.
Ouais, il est super méchant. Ouais, c'est un méchant assez charismatique qui fout un peu les boules. Ça a l'air d'être une grosse enflure. Il a une certaine classe quand même en tant que méchant.
Ouais, il a tellement de classe quand même qu'on nous fait une énorme révélation. C'est un truc que depuis un demi-siècle, les Américains aimeraient savoir ce qui se passe. Mais ils savent enfin qui a tué JFK.
Ouais, enfin bon, d'un autre côté, avec tous les gens qui ont tué JFK depuis que je lis de la BD, que je regarde des séries, etc., je pense qu'on devrait faire un club. Il y aurait une centaine d'assassins de JFK.
Oui, mais en même temps, du coup, le procureur Harrison avait raison. Il y avait bien plusieurs tireurs.
Ah ouais, mais alors là, c'est une centaine et beaucoup de super-héros.
Ah oui, mais attends, ils étaient tous. Dans les... Il y avait deux, trois bâtiments, un par étage.
Oui, parce qu'entre le comédien. j'ai vu quoi d'autre. Enfin bon, il y a un paquet de BD où on sait enfin qui a tué JFK. Et donc. Où en est-on de notre histoire, Crâne Rouge
A récupéré le cube cosmique.
Oui, et donc, autant dire qu'il a le pouvoir absolu.
C'est ça, il peut tout faire, il peut faire tout ce qu'il veut. Forcément, on envoie donc les nouveaux Avengers, et eux, ils se font à peu près tétaner la bouche.
Voilà, et il rame, parce que le méchant, il est balèze.
Alors, le fight commence en page 7-8, et il se termine à peu près au niveau de 2-3 pages avant la fin du bouquin. Voilà, donc...
De toute façon, c'est ce qu'on demande à Ultimate Avenger. Hein. C'est du blockbuster, ça tire dans tous les sens, c'est de l'action, des dessins super sympathiques chiadés. Enfin, moi, j'adore les dessins de Pacheco.
Ah non, les dessins sont vraiment nickels.
L'accès dynamique, ça en jette. Mais, je crois que...
Bon, il y a un mais, parce que donc petit... le mec est intuable. Tout, Hulk passe ses nerfs dessus.
Enfin, le faux Hulk.
Ouais,
enfin,
bon. Rhodes aussi, avec sa méga armure, se fait casser la bouche. La guêpe, bon, de toute façon, elle n'a jamais servi à rien. Œil de faucon aussi se fait casser la bouche. Et finalement, le mec, il crève comme un con.
Ouais, voilà.
Je suis désolé du terme. Hein. Il se prend un avion.
Ouais, il se prend, en fait, il se fait téléporter un avion dans la gueule et il meurt. Ouh, mon Dieu ! Le gars, il a le cube cosmique de la mort et il se fait avoir, mais de façon minable, cette fin est pourrie.
Voilà.
Pourrie. On a été assez d'accord là-dessus avec Matt. C'est dommage d'avoir quelque chose d'aussi péchu, d'aussi sympathique pour en arriver là, en fait. Je m'attendais à un retournement de situation. Alors, je m'attendais bien à ce que le méchant perde, mais il avait le cube cosmique, quoi. Le mec, c'est l'arme absolue de la mort. C'est le pouvoir ultime. Tu ne s'attends pas à ce qu'il se fasse buter de façon aussi pipeau, quoi, aussi bâtarde. Donc, bah, le chemin était sympathique. L'arrivée est un peu pourrie.
Ça coûte... C'est... assez décevant.
Oui, ça coûte 4€, c'est chez Panini Comics, en kiosque, peut-être encore, parce que ça sort tous les 2-3 mois, je crois. Les
bimestriels, ouais.
Ouais, enfin, quand ils peuvent. Et voilà.
Mais bon ça, c'est... pour 4€, finalement, on n'est pas trop déçus. Hein.
Oui, mais c'est... on est dans le pur easy reading, ça se lit vite fait aux toilettes.
Et donc, voilà. Nous passons à
Cerebus numéro 1 de Dave Sim chez Vertige Graphique pour 35€.
Aïe.
Enfin bon, 35€.
Ah oui, t'as de quoi lire.
Ah oui.
Donc là, je dois vous le dire tout de suite, j'ai essayé. Je n'en ai lu que la moitié jusqu'à aujourd'hui. Je finirai, c'est certain, mais c'est long.
Tu n'en as lu que la moitié parce que c'est long, pas parce que ça te plaît pas.
Ah non, parce que c'est long. Il y a 500 pages, donc...
Ouais, 518.
Ah, j'en suis à 200, j'en suis à la moitié, 258, je crois, voilà. Comme ça.
Alors, qu'est-ce que cette chose ? Donc, le volume s'appelle High Society et nous compte les aventures de Cerebus. Alors, on va faire un peu d'histoire de la bande dessinée nord-américaine.
Ouais, t'as vu cette voix de... Ça me rappelle un ancien épisode, je crois.
Mmh, ouais, je peux la faire à Alain Decaux raconte l'histoire de la bande dessinée nord-américaine. Donc Dave Sim est un auteur canadien qui un jour s'est dit « Hey, je vais faire ma BD et comme je n'ai pas envie de me prendre la tête, je vais m'auto-éditer ». Alors, ne pas se prendre la tête auto-éditer, je ne sais pas si c'est vraiment lié. mais bon, disons que comme ça, il faisait ce qu'il voulait surtout. Et donc, en 77, il commence à créer les aventures de Cerebus l'Oryctérop, qui est un barbare, qui a des aventures où... bon, c'est un hommage à du Conan, hein, du Conan par Barry Windsor Smith, même plus précisément. Donc, c'est fait un peu, ça part un peu dans tous les sens. Et puis, en cours de route, alors je ne sais pas si c'est en cours de route, il avait prévu avant, il se dit « Bon, bah, mon histoire, elle va faire 300 épisodes. Donc je vais faire mes 300 épisodes de Cérébus, c'est-à-dire jusqu'à la fin, et je serai auto-édité du début à la fin. Je vais raconter toute l'histoire de la vie de Cérébus. Alors bien sûr, hein, quand un indépendant dit « Hey, je vais faire 300 épisodes », je pense que tout le monde doit un peu se moquer de lui. Sauf que lui, il l'a fait. Entre 1977 et 2004, il a sorti 300 tomes de sa bande dessinée, des tomes d'une vingtaine de planches, ce qui est assez monumental. Sauf qu'en plus, Dave Sim est un caractère un peu particulier, hein, c'est un Canadien, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, pour bien préciser que ce n'est pas un Américain.
Il a un caractère particulier parce qu'il est Canadien ou tu veux nous faire des amis, toi c'est...
Non, non, c'est, ce que je veux juste dire, c'est que ce monsieur a décidé de ne pas rentrer dans le moule capitaliste américain, états-unien. Il a un point de vue très particulier sur beaucoup de choses. Par exemple, non, sa BD, il ne veut pas qu'elle soit traduite. Non, il voulait pas. Et puis, il a aussi décidé que son personnage, quand il serait mort, il rentrerait dans le domaine public.
Donc,
Cérébus, ouais, quand, à non, la mort de Dave Sim.
Donc, en fait, il est pas canadien.
Pourquoi ?
Il est québécois.
Ouais, pourquoi ? C'est un rebelle de la mort. Non, je pense pas
qu'il soit. Si tu me dis qu'il veut pas être traduit, c'est qu'il l'a écrit en français.
Ah non, non, je vais finir mon histoire.
Donc, ah, non, mais il faut tout dire.
Histoire. Ah. Et donc, bah, Dave Sim, bon, après, vraiment, Dave Sim a eu un accident où il a failli y passer, et a un peu revu sa façon de voir les choses sur la traduction et a autorisé la traduction. La version française de Vertige Graphique est une des premières traductions de Cérébus en langue non américaine. C'est donc une des premières traductions. Je crois qu'il y a eu de l'espagnol aussi qui s'est fait. J'ai un doute, mais c'est même pas sûr pour dire. Et c'est un pavé. En gros, il existe en tout 16 recueils de Cérébus d'une centaine de pages. Oui, une cinquantaine. Je suis pas sûr que ce soit... Bon, c'est pas grave. Et Vertige Graphique a décidé de prendre le risque. Je dis bien le risque parce que c'est pas évident comme bande dessinée de le sortir en France. Et ils ont fait les choses en plus de façon un peu tordue pour limiter le risque. Ils ont commencé par nous sortir le volume 2. Comme je l'ai dit, au début, Dave Sim se cherchait un peu, partait un peu dans tous les sens, et l'histoire était graphiquement, bah, il n'était pas encore très abouti. Donc déjà, hein, c'est un point, le mec il commence son histoire. Et ensuite, au niveau de la narration, il partait un peu dans tous les sens. Le tome 2, on commence à avoir une histoire un peu plus cohérente, c'est-à-dire que dans ces 500 pages, on a vraiment quelque chose qui tient la route. Et qui est bien cohérent du début à la fin. On va suivre donc Cérébus qui était un barbare, donc on a un petit résumé de tout ce qui s'est passé avant en début, hein, très très sommaire. En gros, arrive à l'hôtel Regency, je crois,
ouais.
Après s'être cassé des ordres de Lord Julius, qui était son boss, parce qu'il en avait marre, que c'est un rebelle, qu'il a un caractère horrible, c'est un oryctérope, donc une sorte de cochon.
Hein, un porteureux.
Ouais, un porte-héreux. Il a un caractère horrible. Il ne pense qu'à lui. Il est narcissique. Il est vraiment. Il pense qu'à son intérêt personnel et le reste, il en a rien à foutre. Et donc, il arrive là-bas et tout le monde croit qu'il est en fait un envoyé officiel de Lord Julius. Et donc, tout le monde, d'un point de vue diplomatique, essaye de venir lui faire des avances et des offres commerciales. Et lui se dit cool, je vais me faire des sous. Et donc, son nouveau but dans la vie, c'est d'être riche. En cours de lecture, d'aventure, il décide d'avoir un nouveau but dans la vie, c'est de diriger le pays. Voilà.
Bon. Ah, il vient juste de le décider, là.
Ouais, bon, ouais toi, il vient de le décider. Oui, parce qu'il a eu divers revers de fortune. Et pour faire tout ça, il va être entouré de divers personnages qu'il va rencontrer, dont le fantastique, le sublime, celui que j'adore, le cafard de la lune. Voilà, qui est un hommage à Moon Knight.
Bestiole.
Voilà, ils en parlaient dans le dernier comic box. Donc un hommage à Moon Knight. Et ce mec-là est complètement malade. Il est aussi accompagné d'une jeune femme dont j'ai oublié le...
Astoria,
voilà. Qui est aussi une putain de manipulatrice. Ouais, c'est plus frais pour toi. Moi, je l'ai fini il y a longtemps. qui est une putain de manipulatrice qui... au début, fait un peu la... Ouh là là, je suis la pauvre femme. Et puis on se rend compte qu'en fait... elle essaye de faire monter Cérébus au pouvoir pour, elle, être dans son ombre et avoir du pouvoir derrière. L'histoire n'est pas dénuée d'humour. Ça part un peu dans tous les sens, mais c'est aussi bourré de politique. Il arrive un moment dans la BD où c'est un petit peu difficile à suivre parce qu'il commence à parler des différentes régions dont ils doivent avoir le vote pour pouvoir être élus. Et là, ça devient un peu compliqué. Moi, j'avoue que j'ai un petit peu lâché le rythme. C'est un peu prise de tête là-dessus.
Moi, j'ai bien aimé le passage où elle explique justement les dettes des États.
Oui.
Où en fait, on ne renégocie plus la valeur de la dette, mais on renégocie simplement ce qu'on rembourse en intérêts tous les mois.
Oui, oui.
Comme ça, du coup, si je rembourse les intérêts, je peux continuer à emprunter.
Bah, c'est très politique à ce niveau-là. Le mec, il n'hésite pas à être assez critique. Et puis critique aussi de la BD américaine, parce que le cafard de la lune, qui est schizophrène et qui a des monologues intérieurs qui a des monologues intérieurs qui sont énormes.
Mais non, en fait, il se fait ses propres commentaires, quoi. C'est ça qui est trop fort.
Oui, on a l'impression de lire, tu sais, les vieilles BD les vieilles BD de Frank Miller, je dirais les vieux d'Ardeville, où tu avais toujours les textes de pensée au début, où c'était le cafard de la lune entre subrepticement dans la pièce. En fait, tous ces...
Où on pourrait citer aussi dans Cusco, l'Empereur Mégalo, Kronk,
oui, oui, qui fait ses propres commentaires.
Non, sa propre musique.
Oui, sa propre musique aussi. Mais... Enfin bon, c'est ce personnage-là qui est génial, qui en gros lutte, parce qu'en plus c'est une sorte d'anarchiste anticapitaliste, je ne sais plus, il y a un terme bien précis pour définir son mouvement de pensée. Il tue les suppôts du capital et de la société avec des croissants de lune en pierre géante.
Des croissants de lune en pierre géante, ouais.
Voilà. Bref, cette histoire est superbe, la fin est géniale. Def Sim, graphiquement, bon, a un style assez simple, il y a assez peu de décors. Ne vous fiez pas forcément sur les décors, la couverture qui a un putain de décor de la mort. Apparemment, dans les tomes à venir, il va se faire aider par un artiste qui s'appelle Gerhardt et qui va faire tout. Les décors, dont celui qu'on a sur la couverture. Au niveau de la narration, c'est super bien foutu. Il s'est bourré d'expérience. Alors ça, des fois ça passe, des fois ça passe pas. J'avais lu sur un blog quelqu'un qui disait, bah en fait, il a pas d'éditeur, donc il fait ce qu'il veut, et donc des fois il fait des trucs qui marchent pas parce qu'il y a personne pour le recadrer. Et surtout vers la fin, il y a tout un passage où la BD commence à se lire format paysage, et où en plus il arrive à se faire un délire avec Cerebus qui pète un câble et il faut tourner sa BD dans tous les sens pour réussir à suivre comment ça se passe. Des trouvailles superbes. Un personnage qui est un peu une ordure, mais qui est très humain en fin de compte. C'est assez. Qui est décrit de façon très humaine, je trouve. Une histoire qui mêle la politique, l'humour, le romantisme, étonnamment, de façon très intéressante, et qu'il faut un peu remettre dans son contexte aussi. On est en 78 sur ce tome-là. Le tome est complet, raconte une histoire complète. Quoi ? Oui, 78. Tu te souviens ?
Non,
ouais,
tu te souviens pas.
Tu te souviens ?
J'avais, je crois, une tissu dans la bouche et des couches culottes. Ouais, voilà. Je me souviens trop bien.
Donc, toi, de ce que tu as lu de Cerebus pour le moment, qu'est-ce que tu en as pensé ? Moi, j'ai beaucoup aimé. J'espère qu'on aura une suite, voire même le premier tome après. Qu'as-tu pensé ? Alors, c'est en noir et blanc, tiens, on l'a pas dit. Je pense que ça a quand même son importance aussi.
Non, c'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa. Voilà, c'est que c'est un petit peu long à lire parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de pages.
Il y a beaucoup de textes aussi.
On est quand même aussi dans un comic, enfin, dans une BD où il n'y a pas beaucoup d'action.
Ouais.
Donc, c'est quand même
sauf assez... le cafard de lune.
Ouais, mais Bestiole, il est trop fort. Et ouais, c'est vrai qu'il. Ben oui, mais c'est disons que les petits passages justement de Cafard de Lune, ben ça bouge.
Ben en fait, c'est pas mal parce qu'il y a ça rythme. C'est-à-dire qu'on passe d'un. Il arrive à mettre des moments d'humour entre des moments un peu plus difficiles, je dirais, à suivre. Et il utilise. Ben, c'est le classique, comme on a beaucoup d'histoires, le faire valoir comique, quoi. Voilà. Donc toi, t'as bien.
Non, c'est franchement. Ben, donc c'est sympa. C'est vrai que le seul souci, c'est qu'on croise des personnages qui ont déjà été. Croisé par Cerebus dans le tome précédent. Et c'est vrai qu'à des moments, on voit le personnage arriver. Au visage de Cerebus, on se dit oui, il a dû déjà le rencontrer, il le connaît. Mais il faut qu'on attende peut-être 5, 10, 15 pages pour avoir un petit peu le fin mot de l'histoire et savoir qui c'est vraiment.
Oui, c'est vrai que le tome 1 manque un peu. Alors, je pense qu'il devait être suffisamment, d'un point de vue qualitatif, en dessous du premier tome pour que l'éditeur. Et pas pris le risque. Ouais. Je pense que c'est déjà un risque de cette BD-là, parce que 35 euros, c'est pas donné.
35 euros, déjà, c'est pas donné. Bon, c'est vrai que même si c'est un beau bouquin,
moi, je veux aussi noter le travail d'édition, parce qu'au niveau du texte, c'est dense. Hein. Au niveau du lettrage, je pense qu'il y a eu un boulot de malade. J'ai entendu dire que le lettrage original était assez particulier. Là, le lettrage est assez bien respecté, j'ai l'impression, dans l'idée. Et puis surtout, ça parle beaucoup. Alors, faire rentrer tout le texte dans les cases, je n'ose même pas imaginer le boulot qu'il y a derrière. La BD a eu 6 mois de retard pour, justement, des affinements de traduction.
Ça a dû être assez coton. Ce que j'ai bien aimé, par contre, c'est la présentation du... Enfin, peut-être justement qui est un petit peu old school. C'est que tu retrouves, je trouve, un petit peu du Eisner sur tout ce qui est bulles et expression des personnages.
Ouais, il y a un peu de ce côté-là. De toute façon, il y a beaucoup d'influence de tous les auteurs, je dirais, nord-américains qu'il y a derrière, qui est assez noté. Le côté barbare, c'est très Conan, et donc les grands auteurs de l'époque. Bref, Cerebus, moi, je ne peux que le recommander. C'est une bande dessinée très sympathique qui mérite le coup d'être soutenue, parce que bah, déjà, j'aimerais bien lire la suite.
Égoïstement, il voudrait lire la suite.
Voilà, j'aimerais bien que ça marche. Et puis surtout... que ça, toi, tu ne le sais pas encore, mais la fin est superbe. La fin est belle. Tu arrives à la fin, t'as presque la petite larme qui coule tellement c'est beau.
Ouais, il me reste plus que 250 pages.
Voilà. Alors, tu vois, je veux dire, Cérébus, pour le moment, de ce que tu en as lu, arrive à mettre de l'émotion jusqu'à ce que tu aies presque la petite larme qui coule.
Non, non, si, non, parce que, ben si, parce que tu recroises des personnages. Donc, enfin, parce qu'au tout début de l'histoire, quand même, ils sont sympas, ils vous font une sorte de petit préambule, ils vous expliquent un petit peu l'histoire de Cérébus. Et c'est vrai que quand tu recroises Jaka, donc l'aubergiste qu'il avait recueilli dans une histoire donc du tome 1,
Ouais, dont il est tombé amoureux, mais dont il a
amoureux,
tout
qui est à
oublié.
cause d'un poison, là, voilà, et puis bon, c'est... Non, c'est sympa, parce que tous les personnages, on va dire, ont chacun, on va dire, un objectif, mais ils tournent autour, ils se cherchent. Non, c'est bien construit. C'est bien
Voilà.
construit.
Eh ben, je te souhaite une bonne fin de lecture.
Ouais. Et en attendant, le tome 3, un jour. Et nous passons donc à
Sculpt.
Sculpt de Jason Aaron et de R.M. Guerra. Le tome 2, Casino Boogie, avec une petite introduction de Garth Ennis.
La classe.
Comme ça, du coup, on est toujours obligé de le citer dans au moins un de nos podcasts.
Dans ces Warren Ellis qu'on cite toujours dans les
Voilà.
podcasts. Ah, zut, on vient de le faire.
Oh. Donc, il est au prix de 13 euros. Donc, dans ce tome 2, donc, on suit donc toujours l'histoire de notre Bad Horse. Là, je ne me rappelle plus son prénom. Voilà, ça y est, c'est
Voilà.
fait.
C'est pas d'HL.
Je sais plus. Bon,
Je
de
sais
toute
pas pourquoi
façon.
j'ai ce nom d'HL ou je sais pas, c'est pas grave.
Donc, on est toujours donc dans les histoires donc, de la réserve indienne. Notre héros continue à fricoter avec son ex amour de jeunesse, mais visiblement uniquement pour le sexe. Et le casino a enfin ouvert. Le casino. Ah, là, tu fais une sorte de
Ouais,
petit
j'ai
rictus.
fait une moue dubitative à la tuyau.
Donc, le Crazy Horse, c'est le casino donc, de Lincoln Red Crow.
Ouais,
Voilà.
les noms sont pas évidents.
Et donc, on va faire pas mal de passages, on va dire, en arrière. Donc, on sait que la mère donc, de Bad Horse, justement, a eu une histoire avec Red Crow à un moment. Un de leurs amis est en taule depuis X années pour justement un meurtre de fédéraux sur la réserve indienne. On sait que quelqu'un y est mêlé plus ou moins. Et on va dire, dans la continuité, on a aussi donc l'enquête de Bad Horse, qui est un membre du FBI.
Oui, on l'a su,
On
voilà,
l'a
dans le
su.
précédent.
On
C'était
l'a
la
su.
surprise, donc désolé si vous n'avez pas encore lu le précédent, mais
Ouais, mais enfin,
voilà.
un tome
Bon,
2, on peut,
voilà.
hein.
Oui.
Voilà. Et
Oui.
donc, qui est devenu un homme de main de Red Crow.
Moi, je note surtout la construction, parce qu'en fait, on va suivre le soir de l'ouverture du casino, et chaque épisode,
Va revenir dans le temps.
c'est le point de vue d'une personne au niveau du temps. Et en gros, on pourrait s'amuser à faire un montage des épisodes les uns côté des autres, parce qu'à chaque fois, il y a l'heure du moment où ça se passe. Puis on voit des choses qui se passent dans la première histoire et on a l'explication de comment ça s'est passé dans une histoire derrière. C'est assez bien construit. D'autant qu'en fait, par rapport au final de l'épisode précédent, le final est le même deux fois.
Oui.
C'est-à-dire que on va vraiment suivre le jour de l'ouverture, la découverte d'un cadavre, qui est la fin de ce tome 2, mais qui est aussi la fin du tome 1, la découverte du cadavre. Donc il y a une construction assez. Disons que l'histoire n'avance pas. Mais prends du recul et on apprend ce qui s'est passé avant.
Bah, disons que ça permet de mieux comprendre la construction des personnages
Ouais.
aussi.
Cerner les personnages, voir qu'ils sont pas forcément si noirs ou blancs, même si bon, on avait des doutes, hein, parce que Bador, ça avait déjà l'air d'être plutôt bien gris,
Ouais,
gris foncé même.
mais Red Crow, du coup, il
Ouais.
devient. Il est plus aussi méchant qu'il n'y paraît.
Voilà.
Mais bon.
Bah, les personnages sont globalement tous des ordures, hein. Globalement, hein. On est dans du polar hard-boiled, c'est un peu tous des enfoirés. Mais ils profitent de cet arc pour leur donner un petit peu de fond. Tiens, d'ailleurs, j'avais pas vu, il y a le petit logo interdit aux moins de 16 ans sur la couverture.
Ouais, bah enfin, c'est quand même assez trash, quoi. Hein.
Oui, c'est trash. Non, mais ça les mérite, hein, les interdits aux moins de 16 ans. C'est assez trash. Bon, bon après, il faut aussi s'intéresser à ce genre d'histoire qui est assez complexe. Du point de vue de cette narration aussi. Et puis, il en profite aussi pour introduire de nouveaux personnages, dont le vieux, là, dont j'ai
Le
oublié.
chaman.
Elle, une sorte de chaman qui a des visions, qui laisse toujours un doute à savoir, c'est pas mal, ça, s'il y a du fantastique ou pas dans cet univers. Je pense que non, mais. Mais lui, il y croit, en tout cas.
Lui, il y croit. Attends, c'est son nom. Je suis à la bonne page en plus. Catcher.
Catcher, ouais.
Dreamcatcher.
Oui,
Du coup.
forcément.
Mais c'est vrai que toutes les images justement où on parle de Catcher, c'est quand même assez intéressant parce que une vieille du village lui dit que oui, t'arrêtes pas de dire que tu vois à chaque fois l'animal totem de chaque personne. Et c'est vrai qu'après, du coup, quand on revient dans l'histoire, ils font des images où on voit le totem de chacun des
Ouais.
personnages. Et là, j'ai trouvé qu'au niveau graphique, ça rendait super bien.
Bah, en parlant du niveau graphique, qu'as-tu pensé du trait de RM Guerra?
Là, tu restes. Moi, je suis resté un peu pantois, quoi. C'est. T'as l'impression. Voilà, disons que tu te. Comment le dire? On a l'impression, moi je l'ai eu en tout cas, de me retrouver. Tu es dans le désert, t'as l'impression que même l'image, elle est poussiéreuse, quoi. Tu te dis, il y a le sable qui passe. Il y a le sable, il y a tout ce qu'il faut. T'as cette impression de saleté, de crasse dans l'image, bah, qui colle super bien à l'histoire.
Ouais, y a un trait très très crade, un ancrage assez noir, assez sombre. Je pense que les dessins doivent être aussi très très beaux en noir et blanc. La couleur apporte, de toute façon, la couleur est traitée de façon très discrète.
Ouais, mais je pense qu'en noir et blanc, tu perdrais justement cette espèce d'aspect poussiéreux.
Ce relief que tu peux avoir dans la planche, ouais. Enfin, franchement, graphiquement, c'est pas mal. Moi, c'est vrai que je trouve parfois l'ancrage un peu trop brut. Ça colle bien à l'histoire, mais il y a un petit côté qui fait vraiment old school, tu vois ce que je veux dire? Qui fait un peu vieillot.
Moi, je pense que c'est voulu.
Voilà, bon, après, j'apprécie. Bon, parlons aussi d'un point de vue graphique, des putains de couvertures de Jock.
Ah ouais, quand même, la dernière, tu prends juste donc le petit repli pour voir les couvertures américaines, et là, y en a quand même qui sont pas mal, pas mal, pas mal du tout.
Voilà, Jock fait des couvertures superbes. Enfin, on va pouvoir parler un petit peu de la traduction qui doit pas être évidente, je pense. Parce que c'est bourré de références aux trucs indiennes. Alors, c'est une traductrice que je ne connaissais pas, Françoise Effos Roche. Je ne sais pas si le boulot est bon, mais en tout cas, ça a l'air pas mal.
Bah, en tout
Moi,
cas, on
ça
arrive à.
me.
Enfin,
Je
je
trouve ça
pense, je
sympathique.
trouve que ça retranscrit. Ça retranscrit bien l'ambiance, je pense,
Ouais.
qu'a voulu donner non, justement l'auteur.
Voilà, et puis je suis moins déçu, là j'ai relu Sandman il n'y a pas longtemps pour un futur podcast. Oh, les contresens de traduction que j'arrive à lire en lisant l'AVF dans le premier tome, c'est assez effrayant. Mais on en reparlera parce que ça m'a choqué.
Et nous passons donc sur le tabouret.
Nous passons sur le tabouret. Le trop grand vide d'Alphonse Tabouret. Une bande dessinée en un tome chez Ankama au prix de 14,99 € et qui est écrite par Sibyline, si je me souviens bien,
Capucine.
lettrée par
Oh,
Capucine
ça va, moi
et
je prends
dessinée par
Washington.
Jérôme Daviaud. Alors Alphonse Tabouret est une sorte de petite histoire poétique, je crois que poétique n'est peut-être que le mot, qui suit la vie d'un petit bonhomme qui apparaît, qui sort de rien, qui est né de la dernière pluie, comme ils disent, et qui n'a aucun souvenir de ce qu'il est, de ce qu'il sait faire, de ce qu'il a fait, et qui part découvrir le monde. Et au fur et à mesure de rencontres, va affirmer son identité. Va alors toujours sur un ton très poétique, très très étrange, un peu humoristique, un peu naïf.
Ouais, j'allais dire très enfantin quand même.
Voilà, un peu naïf. Donc qui va affirmer donc
Mais
c'est
c'est
que
pas péjoratif le très
non.
enfantin.
Oui. Et voilà, c'est une histoire très simple. Bon, c'est un beau gros tome quand même de 180 pages en noir et blanc.
Mais ça se lit plus vite que Cérébus.
Ah oui, ça se lit beaucoup plus vite que Cérébus, parce que bah il y a des
Il y a moins
grandes
de
images, il
texte.
y a moins de texte, et un texte simple. Moi, j'ai trouvé que ce bouquin, bon déjà le trait de Jérôme Daviaud, je trouve les dessins super sympas, tout mignon, tout bien fait. La façon dont c'est mis en page aussi, avec les dialogues qui sont, il n'y a pas de bulles en fait, tous les dialogues sont en général sous le texte ou à côté, avec une petite vignette de la tête du personnage qui
Ouais,
parle.
moi je me suis dit, pour des gamins, pour faire du théâtre, c'est royal.
Ouais. Pour les gamins, c'est génial. Et en plus, j'aurais tendance à dire que il y a un deuxième niveau de lecture un petit peu plus adulte, qui parle vraiment bah, de l'amour, de rencontrer l'être cher, de avec quoi est-ce que je peux remplir le vide de mon existence.
On rejoint un petit peu le petit prince, mais.
Voilà. C'est du même ordre d'idée que de Le Petit Prince. Moi, j'ai trouvé ça très très beau, très très joli, avec plein de scènes marrantes. C'est-à-dire qu'on en rigole, mais enfin, on en sourit plus qu'on en rit.
On en sourit, ouais.
Voilà. Bon, en plus, je trouve l'édition, mais alors d'une beauté
Ah non, ça, l'édition,
phénoménale.
là, elle claque, hein.
Voilà, c'est du couverture cartonnée, avec, zut, comment on appelle les surimpressions, en défonce, avec des bouts du dessin en défonce. Je suis arrivé à la fin de ce bouquin avec une envie de le relire pour voir, essayer d'aller plus loin dedans, pour voir si j'avais pas raté certains sens, parce que j'ai trouvé ça joli. Par contre, il me semble que tu es un peu plus dubitatif.
Alors, sur la qualité graphique, je suis d'accord. Sur oui, il y a des moments où j'ai souri, mais je suis arrivé au bout et moi je me suis un peu ennuyé, quoi. Voilà. Alors c'est vrai qu'il y a peut-être une portée philosophique. Bon, je l'ai touché du doigt, mais ça m'a pas époustouflé, ça m'a pas emballé. Voilà. Bon après, je pense qu'il y a énormément de personnes à qui ça va plaire. Bon, moi sur ce coup-là, je suis désolé, mais ça m'a pas.
T'es passé à côté, quoi.
Ouais,
Enfin, t'es passé à côté de toi, on va dire.
c'est ben oui, enfin ou je suis passé à côté volontairement, je sais pas, mais ça m'a pas enthousiasmé. Alors c'est vrai que bon, il y a beaucoup d'approches, il y a beaucoup de moments qui sont assez drôles, qui sont, on va dire, drôles. D'autres qui sont un peu plus. Qui forcent un petit peu à la réflexion, qui vous font penser à des choses. Et bon, peut-être que voilà, j'ai peut-être pas eu envie aussi d'y rentrer en ce moment. Voilà. Mais bon, ça reste quand même, je pense, quelque chose qui peut plaire à beaucoup, beaucoup de gens.
Les enfants?
Ça peut être sympa pour des enfants, mais je pense que ça, il
Ça manque
faut.
d'action et de pouvoir de ninja.
Ouais, donc pour des 8 ans, c'est même pas la peine. Peut-être pour les plus petits, il faut leur raconter. Des plus petits à raconter le soir. Un petit bout de l'histoire à chaque fois.
D'accord. Bah moi, quelque chose que j'ai trouvé surprenant et que j'ai bien aimé, c'est le fait que déjà, il y a un lettrage qui est fait et que le lettreur est crédité sur la couverture. Et que c'est pas le dessinateur qui lettre. Alors peut-être que Jérôme Daviau écrit super mal. Il a une écriture peut-être de cochon et que donc ils ont fait non, toi tu n'écriras pas, on va trouver quelqu'un pour le faire. Mais je trouve ça assez sympa d'avoir ce lettrage qui est assez enfantin, hein, qui passe très très bien.
Enfin, si mes gamins ils écrivaient comme ça, je serais heureux, moi.
Oui.
Oui, parce que là, excuse-moi, ils écrivent bien dans ce cas-là, hein.
Ah oui, non, c'est joli. Enfin bon. On ne va pas s'attarder plus longtemps. Vous comprendrez que moi, j'ai beaucoup aimé la portée un petit peu onirique, poétique de bouquin et que Thio est passé à côté. C'est parce qu'il fait du football américain. Les footballeurs américains n'ont pas de cœur. Tout le monde le sait.
Ok, donc on passe à la suite. Je vais laisser sur son jugement de valeur. Et donc on passe au tome 51 de Spirou et Fantasio, Alerte aux Orcons.
Le nouveau
Le nouveau
Spirou, avec la nouvelle équipe.
Qui s'appelle?
Bah, Johan et Velman.
C'est qui ça, Velman, déjà?
Ah, Velman, c'est qui Johan, déjà? Mais dis-moi, ces gens-là n'auraient pas déjà travaillé ensemble sur une histoire une aventure de Spirou et Fantasio?
Je ne sais plus.
Oui, bon, c'est le cas, nous pouvons le dire. Sauf qu'ils ont un peu changé la donne. Alors déjà, avant de rentrer dans les détails de ce que... De la critique pure, que raconte cette 51e aventure de Spirou et Fantasio?
Donc, on pourrait dire qu'il y a encore un accident à Champignac,
Un grand
malheureusement.
classique.
Un grand classique, un Champignac, décidément, c'est une ville sinistrée. Bien évidemment, le Z n'y est pas étranger. Et toute la zone donc, va se retrouver en quarantaine avec l'apparition donc de générations spontanées d'animaux bizarres, étranges. On retrouve un peu, je dirais, l'idée de. Ah, le trou Franquin
Franquin,
dans.
panade à Champignac.
Ouais, voilà. Ou aussi un bouquin de Franquin, c'était.
Sur la Palombie.
Non, non, sur autre
Pas.
chose. Des petits bonhommes jaunes, là.
Des petits bonhommes jaunes.
Ouais, là, je te le retrouverai, je l'ai plus en
Ouais.
tête. Voilà, et
Moi, j'ai
donc.
aussi trouvé au niveau un hommage à ce que faisait Tom et Jenry, qu'on pouvait avoir dans un. Enfin bon, c'est un hommage d'un hommage, je pense à la Palombie derrière, mais qu'il y avait dans La Vallée des Bannis.
Oui. Puis là, c'est sympa parce que pour une fois, je trouve qu'on retrouve un peu les personnages de Champignac, mais on les retrouve certains dans. Ils sont un peu plus étoffés.
Ouais. Bah moi, j'ai cherché un peu à savoir. Bon, j'ai lu un peu des trucs à gauche, à droite, hein, des interviews de Velman, de Johan, etc. Apparemment, ils voulaient avoir un endroit qui soit familier pour reprendre l'histoire. Ils voulaient reprendre des bases qui soient familières avant de pouvoir mettre plutôt sa tranche. Ah oui, il y a le dinosaure du Mésozoïque aussi. Donc, c'est pour ça qu'il a choisi Champignac. Il voulait revenir sur les classiques. Conflit entre Zorglub et Champignac aussi, donc il a commencé à lancer quelque chose, et donc je trouve que ouais, il est un peu recherché, et puis surtout il a remis le costume de Groom, mais en l'expliquant de façon que j'ai trouvé très très drôle. En gros, Spirou et Fantasio travaillent pour le magazine, pour les éditions Dupuis, et font des campagnes promotionnelles dans lesquelles Spirou est obligé de porter son costume de Groom. Voilà, et donc il nous explique pourquoi est-ce qu'il a toujours son costume de Groom des années après, et j'ai trouvé ça pas mal.
C'est une bonne idée.
Voilà, d'autant qu'en plus, tous les auteurs avant, que ce soit de Franquin à Tom et Jenry, que ce soit Morvan et Munuera, Fournier et compagnie, avaient essayé petit à petit de le débarrasser de ce costume de Groom. Donc on revient sur des bases bien connues, je trouve.
C'est assez efficace.
Voilà. Graphiquement, Johan a fait un travail très différent de ce qu'il avait fait sur le tome qu'il avait dessiné précédemment. Parce que, bah, en fait, dans le précédent, il donnait sa vision de Spirou. Et là, il donne la vision de Spirou pour tout le monde, en fait. C'est un peu l'impression que ça donne. On est plus classique, un petit peu franquinien. Même si, bon, on reconnaît quand même la patte un peu particulière de Johan. Ça m'a rappelé un peu ce qu'il a pu faire avant avec les Fil Chaos. Ou les Toto l'Ornithorynque et compagnie, même si bon là on n'est pas en couleur directe. Non. Scénaristiquement, que penses-tu du travail de Velman à ce niveau-là?
Moi, je trouve ça sympathique. Une bonne
Ouais.
histoire.
Classique.
Classique, mais avec des rebondissements, avec une voilà. Ça c'est moi, je l'ai lu vraiment facilement, avec plaisir.
Alors, par contre, tout ce qui a été fait auparavant par Morvan et Numenera a été totalement zappé. Ça t'a pas choqué? Ça t'a pas un peu perturbé?
Non, parce que je les ai quand même lus il y a un petit bout de temps. Enfin, un petit bout de temps. Entre guillemets, dans le sens où pour moi c'était pas, ils étaient un peu, enfin, c'était un peu décroché par rapport à ce qu'il y avait avant, donc.
Ouais, bah d'ailleurs, il y a une référence à ça. À un moment, il parle de Miss Flanders, qui est un des personnages créés par Morvan pour la série. Et ils expliquent que c'est une réalité alternée ou un truc dans le genre. Il y a une petite pique là-dessus. Enfin, moi, je trouve un peu dommage que. Alors, c'est bien de revenir un peu à la base, mais j'avais trouvé la fin du numéro 50 tellement. Waouh, ça a l'air à suivre, ça a l'air bien, comment ça va évoluer, que je suis un peu déçu de ne pas retrouver cette suite-là. Ça n'empêche que j'ai bien aimé. Hein. Et puis, en plus, je trouve qu'il y a une approche de Velman qui me fait penser un peu à l'écriture des scénarios de séries télé qu'on a maintenant. On a une histoire indépendante, mais on a un fil rouge. C'est-à-dire que c'est. On comprend qu'il va y avoir une suite à ce qui s'est passé, que c'est que le début de quelque chose, mais l'histoire reste complète.
Ouais, je vois ce que tu veux
Tu
dire.
vois ce que je veux dire? C'est toi, c'est la série où on va avoir l'épisode du jour, quoi, qui va nous raconter son histoire, et en fil rouge, on sait que bah, l'épisode d'après va être une conséquence de cet épisode, quoi. Donc,
Vas-y.
c'est plutôt bien écrit, plutôt malin. Ça donne envie d'aller vers la suite. C'est une bonne reprise, je trouve.
Oui, non, c'est le seul truc que j'ai pas compris, c'est Vive la Belgique libre.
Là, je ne.
Voilà,
Ouais.
là c'est vraiment vive la Suède, je l'ai compris, vive le Tour de France aussi, mais vive la Belgique libre.
Je ne sais pas. Là, je ne sais pas. Enfin, un bon tome, un
Un
excellent
bon tome.
tome.
On attend de voir la suite, parce que de toute
Voilà.
façon la fin indique bien que il va se passer autre chose dans le tome 52. Bon, maintenant 51, ils ont pu faire un truc, mais bon.
Voilà. Et puis bon, en plus ils sont permis de l'humour un petit peu les Orcons, qui par rapport aux Orglums sont un peu particuliers, je trouve sur le nom des personnages, qui a un double sens de lecture assez intéressant.
Ils n'ont pas de cerveau.
Ouais. Et ils sont très drôles comme méchants.
Et on passe donc enfin donc à notre intégrale du jour. Et là, intégrale,
Là, on
intégrale. Là, il
part
y a
sur
du
du
lourd,
lourd.
hein.
Ah, du très lourd, comme
Au
diraient certaines personnes.
niveau poids,
Au niveau poids, nous avons décidé de nous intéresser.
au monde de 3.
Voilà. Et on va pas faire l'intégrale du monde de Troie parce que je n'ai pas assez de bibliothèque et puis j'ai pas tout non plus.
Ouais, parce qu'on s'est arrêté à un moment quand même.
Voilà. Nous allons nous intéresser à l'intégrale du début du monde de Troie, donc de l'Anfeust de Troie. 8 tomes.
Bon.
Voilà.
C'est du lourd.
C'est du lourd. 8 tomes de l'Anfeust de Troie. 8 tomes qui ont donc été publiés entre 94 et alors le dernier tome, je retrouve la date. Ah,
C'est à la fin.
c'est à la fin. Donc entre 94 et 2000.
Seulement 6 ans.
Ouais, seulement 6 ans. Ouais, je pensais qu'il y aurait eu un peu plus, mais bon. Et qui ont bercé notre adolescence, on peut le dire.
On peut.
Voilà, c'était de l'héroïque fantasy débridée. Ça nous permettait de découvrir deux auteurs que sont Arleston et Tarquin. Arleston, qui avait déjà un peu bossé auparavant sur les séries,
Léo Loden, je crois.
ouais, les Léo Loden, qui étaient purement de la bande dessinée locale provençale,
Avec l'accent.
voilà, avait l'accent. Il avait travaillé sur d'autres trucs. Je crois qu'il avait commencé les Feux d'Asquel, peut-être, c'est possible,
Oui,
ou
peut-être
les
même
Maîtres
les maîtres
cartographes.
cartographes, je crois aussi.
Alors attends, parce que dans mon tome 1, il parle vaguement des auteurs au début. Ou à la fin, voilà. Il y avait une explication. Ouais,
Non.
si, si. Avec une
Ouais.
mise en page d'époque qui est effrayante.
Qui pique les yeux presque, hein.
Voilà. Voilà, il avait fait. Attends, mais des séries dont même pas on en a entendu parler. Il avait fait Tandori avec Kurt Riddell, Les Feux d'Asquel. avec Jean-Louis Mourier. Didier Tarquin, lui, par contre, bah, en fait, il avait fait un truc qui s'appelait Rock, une série. Il a fait 2 tomes, tu vois. Rock, t'en as entendu parler?
Désolé.
Et voilà, c'est trop bien.
Bon, alors donc parlons donc de Landfest.
Bah, Landfest.
L'histoire de base déjà, vas-y, commence.
L'histoire de base. Le monde de Troie est un monde où, en fait, chaque personne a un pouvoir, petit ou grand, en général, des petits pouvoirs, qu'ils ne peuvent avoir que s'il y a dans la région la présence d'un sage d'Ecmul. Et nous allons suivre l'aventure de Lanfeust, qui est un forgeron, et qui a comme pouvoir de pouvoir faire fondre le métal.
Ce qui est utile pour un forgeron. Non, il ne le fait pas fondre, il le porte à incandescence.
Voilà, oui, mais il peut le faire fondre. Hein. À un moment, il crée une cuve de métal fondu dans un des épisodes pour l'envoyer sur les envahisseurs. C'est quand Castel Orazur est attaqué.
Ah, exact.
Voilà. Et donc, et il est mis en contact avec le pommeau d'une épée qui
D'un
appartient
chevalier.
à un chevalier qui est contre la magie, qui s'appelle le chevalier d'Orazur, le baron, baron Orazur, et qui lui donne le pouvoir absolu, c'est-à-dire tous les pouvoirs quand il le touche. Et donc le sage d'Ecmul, qui s'appelle Nicolède, qui est en gros en charge du village, regarde et se dit, ça doit être fait avec de l'ivoire de Mag'Goa'moth, au niveau de la garde, qui
Qui est
est
la créature fabuleuse.
la créature fabuleuse, qui est la source de la magie. Et donc il décide de partir
Avec moule.
à Ecmul pour comprendre et étudier
Avec
ça,
mule. Avec moule.
en étant accompagné par ses 2 filles qui draguent ouvertement le Lanfeust. Alors une, elle n'a pas besoin de le draguer car c'est sa fiancée. La blonde Sian, et l'autre, elle le drague violemment, la dévergondée Sixi, qui porte bien son nom. Et donc, ils partent en route, et en cours de route, ils vont rencontrer un troll, Ebus. Oui, non, mais ça va, on peut les faire, les jeux de mots, fais pas cette tête.
Non mais enfin, si tu fais pas les jeux de mots dans Landfest, tu les fais plus quoi.
Voilà, qu'ils vont enchanter pour qu'ils deviennent sympathiques, parce que normalement, les trolls sont dangereux et essayent de tous vous tuer, et qui va les accompagner à l'aventure.
Oui, parce qu'il est enchanté en fait, c'est surtout pour ça que.
Voilà. Moi aussi. Tu parles de faire les jeux de mots.
Ok, vas-y, lance-toi, lance-toi.
Donc, voilà pour le début de l'histoire. En cours de route, ils vont voyager, se faire un ennemi qui est Thanos, qui a le même don que Lanfeust, en présence de l'ivoire de Mag'Goa'moth. Il a le pouvoir absolu. Ils vont voyager à travers tout le monde de Troie, jusqu'à aller dans les lointaines contrées du Darchan. Ils vont essayer de retrouver le Mag'Goa'moth
La maison des dieux d'abord.
et la maison des dieux pour ensuite, car dans le Darchan, il y a un système de dieux qui n'est pas présent dans le monde dans les autres. Comment il s'appelle le continent d'Ekmoul, je crois. Hein, je sais plus, non. Je sais plus comment
Je
il
sais
s'appelle le
plus.
continent. Attends, la carte. Et bien sûr, je tombe sur le tome 1, et dans le tome 1, il n'y a pas la carte.
Je suis pas sûr dans le tome 8, elle y soit aussi.
Mais si, elle y est là. Ouais, c'est Ekmul, c'est la Souardie, je pense, ou je ne sais pas exactement. Enfin bon, ils vont au Darchan, ils rencontrent plein de jolies filles. Oui, parce que non, franchement, il faut qu'ils rencontrent plein de jolies filles. Lanfeust est un personnage un peu niais. Qui. Oui, non, mais tu.
C'est un pacoulin!
Oui, c'est un bouseux d'ailleurs, ils le disent à plusieurs reprises. Hein. C'est un bouseux. Et qui devient donc un grand aventurier. Je crois qu'on a bien résumé
T'as
le
bien
buzz
résumé
de
le truc.
l'histoire. Maintenant, on va s'intéresser à 2 choses en particulier. On va s'intéresser d'abord au dessin.
Un dessin qui a bien évolué.
Oh là là, qu'est-ce qu'il a bien évolué! Pour voir comme il a évolué, un truc qui est intéressant à faire, c'est de regarder. Donc là, on a un Lanfeust numéro 8, qui n'est pas une première édition, donc qui date un petit peu. Enfin, qui date un peu. Hein. On a un Lanfeust numéro 8 et on a un Lanfeust de Troie numéro 1 qui doit être sans doute une première édition, j'ai un doute, mais c'est possible. Et donc on a le dessin du dos qui montre les personnages en action, etc. Sauf que pour le 8, il a été refait. Et le monsieur, en fait, il dessine quand même vachement mieux, hein, entre-temps. Vraiment vachement mieux.
Bah, il a bien grandi,
Il a
ça,
bien
il a évolué,
grandi.
il a bien évolué,
En
il a
8
bien
ans, en
tourné.
8 ans, il y a un progrès énorme au niveau graphique. On voit qu'au départ, bah, dans le tome 1, c'était un petit débutant. Le dessin reste sympathique, hein. Moi, j'aimais bien aussi. Mais il y a des approximations, des. Comment? Zut, le. Oh, les corps sont pas forcément bien proportionnés, les visages sont pas aussi fins.
Non.
Mais c'est surtout très détaillé. Moi, ce que j'aime, c'est le niveau de décor. Les détails qui vont. Il s'est bourré de détails et ça va en s'améliorant avec le temps. Tarkin adore s'amuser à mettre des références et des détails dans ses dessins. Lorsqu'il va faire une foule, il va rajouter des personnages connus. Dans un des premiers tomes, il y a une foule où on voit les personnages de Léo Loden, par exemple. Il va s'amuser à mettre des énigmes cachées dans la BD. Dès qu'il y a un parchemin, il va écrire à l'envers une connerie dedans. Donc il y a un des tomes où il faut trouver un fatras, il faut trouver les 10 références à des personnages de bande dessinée. Je crois que j'en avais trouvé 6 ou 7. Un truc dans le genre. Il avait même lancé un jeu concours dans un des tomes. Bon, je pense que, où on pouvait envoyer les réponses aux. Comment? Les réponses aux auteurs. Je crois qu'il y en a un où il a caché des auteurs de bande dessinée. Dans la BD, il te dit
Ouais, je m'en rappelle
trouvez
plus
les
là.
auteurs de bande dessinée cachés, les 6, je crois. Enfin bon. Il s'amuse à faire des délires qui donnent envie de lire les détails, de s'intéresser vraiment aux détails du dessin. Donc le dessin est sympathique, il a ce côté assez en finesse avec le temps. J'aime beaucoup la façon dont il a de dessiner les volutes de magie, les volutes de cheveux aussi, parce que quand ils utilisent leur pouvoir, les cheveux volent dans la tête. Petit clin d'œil à Dragon Ball, je pense.
Ou pas.
Eh ouais, je pense. Le monsieur laisse beaucoup de clins d'œil au fait qu'il ait une culture comics et je pense aussi manga. C'est un peu notre génération, hein, s'il connaît pas Dragon Ball, ça me surprendrait quand même. Quelque chose à rajouter sur le dessin?
Non.
Non, j'ai été clair. On va parler des couleurs. Il y a un changement de coloriste en cours de route, hein,
Ah
monsieur.
oui, mais c'est du enfin, qui est pas allé en mal. Je pense aussi que les techniques ont un peu évolué entre 94 et.
Alors moi, je dirais pas que c'est pas allé en mal, je préférais le premier coloriste.
Ah ouais.
Ah ouais.
Donc le je trouve que sur la fin, c'est un aspect un peu plus moderne quand
Ah oui,
même.
c'est un aspect plus moderne, mais je préférais le premier coloriste. Là, donc, je les ai relus cette semaine, donc c'est à peu près pour moi. Alors, je ne vais pas prendre le tome 1 parce qu'il vieillit un peu, mais je crois que dans le tome 6, c'est encore Lanco qui colorise. Je trouve les couleurs de Lanco beaucoup plus fines, beaucoup plus subtiles. Alors, effectivement, ce n'est pas forcément le plus approprié à une BD d'aventure comme L'Enfeuse de Troie, hein, où ça en jette dans tous les sens. Mais je trouve qu'il y a une finesse dans les visages, dans les décors, que je trouve vraiment super sympa, et qu'on perd un peu avec une couleur beaucoup plus vive, avec des aplats beaucoup plus tranchés pour montrer le relief, donc des couleurs de gut. C'est mon point de vue. J'aimais bien ce côté un petit peu doux qu'on avait dans les couleurs qu'il y avait auparavant. On est vraiment allé sur des couleurs qui pètent beaucoup plus à partir du tome 7.
Ouais.
Toi, tu préfères les nouvelles, toi.
Moi, je trouvais que l'évolution était bonne, en fait, d'avoir changé, ça m'avait pas choqué. Et au contraire, je trouvais que c'était une bonne évolution. Après, bon, ça reste un choix personnel.
Voilà, donc on pourra noter aussi que les couvertures commencent à être vraiment bien à partir du tome 6, où on a Sixie à moitié à poil dessus, certes, mais c'est à partir du tome 6, on voit que le trait a évolué. Quand même. Scénaristiquement maintenant, que dire du travail d'Arleston?
Moi, je le trouve bon. Maintenant, je sens que ton avis est un peu plus mitigé, mais non, moi je le trouve vraiment. Enfin, moi je trouve que c'est le scénario qui est vraiment excellent. Voilà, c'est de la bonne fantaisie. On a un très bon rythme. On a plein de jeux de mots. Ça, je veux dire, je pense que tout
Tu
le monde
trouves
a
pas que le
cherché.
scénario est un peu dilué?
Ah, je trouve que sur les 8 tomes, je trouve que ça tourne bien quand même.
C'était une question purement rhétorique, parce que moi non. Hein.
J'ai bien
Mais.
senti, mais moi je trouve que non, c'est pas dilué. Du 8 tomes, ça cale son truc, quoi.
Ouais, non, mais ce que je veux dire, je suis d'accord avec toi en fait.
Non, mais moi je suis une.
Voilà. Bon, bah, moi je vais parler du scénario d'Arleston. Pour moi, Arleston, en fait, je vais pas être aussi dubitatif que tu le crois. J'aime bien ce mot dubitatif, je l'utilise beaucoup, je trouve.
Mais je suis pas sûr que tu connais vraiment la signification du.
Toi, clairement inconcevable.
Inconcevable.
Et donc, je trouve qu'en fait, c'est un raconteur populaire. Le gros défaut, entre guillemets, qu'il y a à Arleston, c'est qu'il fait de la BD pour son lectorat, qu'il fait de la BD populaire, qui va plaire à tout le monde. On a souvent eu le débat, on va dire, l'association contre Soleil, hein, l'association qui sont les auteurs qui se prennent la tête, qui font des trucs compliqués, où on réfléchit beaucoup. Et Arleston, lui, il fait du blockbuster. Mais il fait du blockbuster de qualité. Alors certes, il y a eu beaucoup de séries qui ont évolué dans le sillage de l'Enfeust, et qui était de moins bonne qualité, de l'heroic fantasy, avec un peu moins d'imagination, avec un trait parfois peut-être plus maîtrisé, mais moins élégant, parce que malgré ses défauts dans les premiers tomes, je trouve que le trait de Tarkin est sympathique. Et effectivement, il joue. Pour moi, chez Arleston, et là je vais peut-être me faire battre à mort par beaucoup de gens, il y a un côté très Goscinny. Il joue avec les jeux de mots comme le faisait Goscinny, il fait de la bande dessinée pour plaire aux gens, il fait de l'humour qui est vraiment dans son époque. Je veux dire, quand il fait son jeu de mots, où en gros il passe 2 pages à juste s'amuser pour essayer de placer le frère Roque d'Or comme jeu de mots avec les réceptions de l'ambassadeur, il est dans son époque. Il est au niveau des jeux de mots, c'est bourré de références assez anachroniques parfois, mais qui passent très très bien. Et il passe 8 tomes, bah, il va nous raconter vraiment de l'aventure, de l'action. Alors effectivement, on pourrait dire qu'il fait traîner son histoire, mais finalement c'est très bien construit. Si on regarde bien sur les 8 tomes, les 4 premiers tomes racontent quelque chose, les 4 suivants racontent autre chose. Les 4 premiers tomes racontent comment l'Enfeuste récupère l'épée. À la fin du tome 4, ils ont récupéré l'épée, c'est limite fini. Tu pourrais t'arrêter là. Mais au début du tome 5, le grand méchant récupère l'épée et on arrive sur la quête du Mago Amoth. On a un cycle qu'on pourrait facilement couper en deux, qui montre que ça a été assez bien construit. Alors je sais pas si ça a été réfléchi pour être 8 tomes dans ce sens-là dès le départ, mais entre le début d'une histoire et la fin, on a bien évolué, on a bien avancé. Et surtout, moi, ce qui m'a... Alors là, je vais partir dans le côté intello. J'ai l'impression que l'histoire et le dessin suivent l'évolution du personnage qui passe de l'adolescence à l'âge adulte. À la fin du tome 8, on peut considérer qu'il devient adulte. Voilà, je ne gâcherai pas le plaisir des gens qui j'ai bien aimé cette fin du
Oui,
tome 8.
il est devenu un adulte, ouais, on va dire ça
Voilà,
comme ça.
disons qu'il découvre qu'en fait ce qu'il est, ce qu'il est réellement, quelle est sa personnalité. Il fait son choix entre les 40 000 filles qu'il y a dans l'aventure et qui veulent de lui. Il grandit. Et pour moi, le scénario et le dessin ont grandi en même temps et en parallèle. C'est l'impression que j'ai eue. T'as vu, ça fait vraiment critique littéraire. Je pourrais écrire dans Télérama. Hein. Enfin bon, si dans
Ouais.
Télérama, je dis que l'Enfeust, c'est trop bien, je sais pas
Je suis pas sûr que ça passe
si
dans
que ça
Télérama,
passe.
mais
Ouais.
bon, tu peux tenter, hein.
Et le problème, c'est que je suis tombé moi aussi dans ce procès d'intention. C'est-à-dire que j'ai arrêté de suivre l'Enfeust parce que je sais pas, j'étais dans ma période prise de tête l'association. J'ai dit ouais, mais c'est les trucs pour gamins, j'ai grandi, etc. Mais non, non, j'ai arrêté de suivre l'Enfeust et là je n'ai qu'une envie en ce moment, c'est de me racheter l'Enfeust des étoiles dont je n'ai que le premier tome.
Eh ben, tu vois, là, par contre, pas du tout.
Ah ouais?
Non, parce que pour moi, Landfest, ça s'est arrêté là et j'ai pas eu l'envie de continuer. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'en fait, Landfest des Étoiles était une très bonne série, qu'il fallait la fin, qu'il y avait beaucoup de plaisir, enfin, on pouvait prendre beaucoup de plaisir à la lire, qu'il y avait plein de choses intéressantes dedans. Et ben, ça m'a même, non, ça m'a pas donné envie. Pourtant, j'ai lu le premier tome, je crois que j'ai lu les deux premiers, mais.
Bah, ce qui choque dans l'Enfeuste des étoiles, c'est le déplacement total de l'histoire de l'héroïque fantasy vers la SF. Moi, c'est ce qui m'a choqué au départ. Et voilà, enfin, il y avait limite l'effet, pour revenir sur du Astérix, les extraterrestres qui répliquent dans Astérix, tu vois,
Ouais.
qui, sur le coup, perturbe un peu, parce que c'est pas le paradigme de cet univers. J'ai utilisé le mot paradigme. C'est pas le paradigme de cet univers. Donc au départ, ça perturbe un peu. Maintenant, c'est vrai que moi, je n'ai lu que le premier tome et je suis curieux de savoir comment ça évolue. Et pour peu qu'il arrive à conserver, bon, ce trait graphique, moi, que j'aime beaucoup, cet humour et cette volonté de faire plaisir à ses lecteurs en me laissant plein de clins d'œil, de jeux de mots, de références dans tous les sens, je pense que ça peut être encore de la grande BD d'aventure.
Bah écoute, quand tu les auras achetés, peut-être que je les lirai, mais là pour l'instant ça me tente moyennement. Par contre, le seul truc, c'est que moi j'aimerais bien qu'il arrête de faire de nouvelles séries et qu'il essaye de finir les anciennes.
Les 40 000 séries parallèles de l'Enfeust? Ah oui, parce que l'univers de l'Enfeust est bourré de 40 000 séries parallèles.
Voilà, non, mais même tous les autres, parce que bon, on attend toujours la suite, par exemple, du Chant d'Excalibur, on attend toujours la suite des Feux d'Asquel. Bon, il y a plein de choses qui sont un peu en suspens et on nous fait des nouvelles séries, alors ce serait bien qu'ils finissent déjà les
Ouais, après,
anciennes.
je comprends aussi que d'un point de vue, dès que tu marques 3 sur la couverture, tu sais que ça va se vendre. Donc, après, c'est vrai qu'effectivement, quand je vois qu'ils ont sorti une histoire sur les filles de Troie par Dany, alors oui, Dany dessine bien les filles, c'est sympa.
Ah, il dessine
Ou
très bien les
le
filles.
Sixi, les aventures de Sixi par Vatine.
Ouais.
Ouais, Vatine, quoi, merde, c'est Vatine, c'est la classe, c'est beau. Mais il y a un côté qui fait un petit peu, ouais, on sort les séries pour faire des thunes, etc. Mais bon, si c'est bien fait. Là, je peux pas juger ce que je les ai pas lus et que il commence à y en avoir beaucoup, beaucoup. J'avoue par exemple que j'ai un peu moins accroché à Troll le 3.
Au début, oui.
Ah, après, non.
Ah, disons que moi, à la fin, voilà, j'ai trouvé que c'était un peu du gag pour du gag. Troll 3, mais on pourra en faire une intégrale si tu veux.
Ouais,
Hein.
on fera une intégrale Troll de
Parce que
3, ouais.
je me suis arrêté au 5, il me semble.
Ouais, bon, bah on verra pour ça.
Parce que
Là, j'ai.
la première histoire est vachement bien. Enfin, excusez-moi, je reviens juste sur Troll, sur les trolls. C'est que la première histoire de Troll, c'est, je crois que ça fait 3 ou 4 tomes.
Ouais.
Et là, c'est encore du bon parce qu'il y a vraiment une histoire.
Ouais, quelque chose qui suit.
Et après, c'est du one shot.
Oui, c'est le gag pour le gag, ouais. C'est un autre type d'écriture aussi, hein, donc bon.
Et là, ça m'a moins plu, mais bon, ça c'est
Voilà.
personnel, quoi.
Mais je pense qu'on va plutôt pour les intégrales continuer à s'éclater dans les bonnes grosses séries classiques d'Heroic Fantasy. Tu sais, celles dont on a 40 000 tomes, dont Non, j'en ai une en 3 tomes là, à penser pour le prochain.
C'est Sandman, c'est pas ça?
Non, non.
En 3 non, en 3 tomes,
Non,
pas
le
possible.
Sandman, c'est en 10 tomes et ça, on le fera bientôt, on verra.
Dès qu'on
Bon,
aura fait
arrêtons
3
de
tomes.
nous projeter dans l'avenir. L'Enfeuse de Troie, bah, je vous le recommande, c'est un grand classique de la bande dessinée Heroic Fantasy. C'est un très bon moment de divertissement. On peut chercher quelque chose d'un peu plus intello et prise de tête dans la bande dessinée. Quand on va lire L'Enfeuse, c'est pas pour ça. Ce qu'on va lire L'Enfeuse, c'est pour vraiment se faire plaisir.
Du divertissement.
Du divertissement et du bon divertissement. Merde.
T'as raison.
Ouais,
Ça, c'est
putain,
vrai. Ça, c'était
merde.
du bon divertissement. Et puis, juste de s'amuser déjà à trouver tous les noms des personnages et essayer de trouver les jeux de mots qu'il y a
Mais par
dedans.
exemple, moi je sais que je pense que dans le frisson de la ruspice, j'ai l'impression qu'il y a une contrepétrie dans le titre, mais je ne l'ai pas trouvé. Le fripon de. Enfin, je sais pas, il y a peut-être une contrepétrie, tu vois, parce que je suis sûr qu'il y en a des paquets qu'on a ratés. Mais bon.
Ah oui, non, mais ça, il doit y avoir à mon avis, un sacré tas qu'on a dû rater. Mais c'était déjà trouvé assez drôle, parce que du coup, tu es là avec tes potes, tu cherchais.
Par exemple, à un moment, il te dit que les sages d'Eckmühl sont basés sur des hommes politiques. Et donc, tu sais, dans les petits textes que je te disais cachés, retrouver qui sont les personnages politiques qui ont inspiré chaque sage d'Eckmühl. Ah! Bah, j'ai pas trouvé. Bon.
Tout bon peut-être
Ouais. Passons.
enfin bon,
Passons.
allez.
Allons à la suite. Allons à notre rubrique online. Nous allons nous intéresser à une bande dessinée que j'ai découvert via Néo sur son blog. Je mettrai l'adresse dans les liens. Qui s'appelle L'Entremonde. L'Entremonde est une bande dessinée qui est réalisée par Yanouche, qui vient de finir le premier tome de son histoire. Il a mis presque 2 ans pour le faire, il y a 48 planches environ. C'est tout disponible sur son site. Et c'est une bande dessinée qui, j'ai trouvé très intéressante. Alors, graphiquement déjà, on va pouvoir en parler parce que tu ne l'as pas lu, mais tu l'as vu.
Ouais, tu me l'as montré tout à l'heure et c'est
Voilà.
vrai que je suis resté à peu près. Bon, la première action, j'ai fait, mais c'est un pro. Il me fait, non, non, c'est un amateur. Et
Voilà.
voilà. Là, enfin, honnêtement, je suis resté assez ébahi devant la qualité du trait du monsieur. Et devant la qualité graphique des planches.
Le monsieur travaille en noir et blanc, en niveau de gris, on va dire, même plus. Il y a un côté très photoréaliste, dans le sens, je pense qu'il travaille à partir de photos, qu'il doit avoir des références photos, j'ai l'impression. Il y a un côté qui fait assez marrant. Alors, moi, ça me fait penser, voilà, je disais, au vieux dessin informatique où on avait un nombre de couleurs limité. Donc là, on a l'impression qu'il a un nombre de niveaux de gris limité, ça fait des aplats pour créer les volumes. Mais ça fait pas ce côté old school, ça passe très très bien. Hein, mais c'est un peu pour expliquer le rendu. Et que raconte donc cette bande dessinée? Cette bande dessinée raconte l'histoire d'un auteur de livres, je crois, qui en gros est en train de se mélanger la tête, se rendre dans une sorte de schizophrénie, il a l'impression que son personnage lui parle. En parallèle, on suit les aventures de ce personnage dans son univers, qui est l'Entremonde. Et le héros, donc, qui est en train de péter un câble, se rend compte petit à petit qu'il y a une sorte de corporation super riche qui essaye de trouver un accès pour rentrer dans cet entremonde. Et donc, on suppose qu'au bout d'un moment, le personnage va rentrer dans le monde où existe son personnage. C'est assez complexe au niveau de la construction, c'est très intéressant au niveau de l'univers, c'est-à-dire qu'on voit que l'auteur a beaucoup travaillé son background. Il s'amuse en dessous de chaque planche à expliquer, non sans humour, l'origine de telle chose, comment fonctionne tel point de politique, de technique, de mécanique dans son univers. Et graphiquement, en plus, il s'amuse. Alors, on note une grande évolution, parce que ça a été fait sur 2 ans, ces derniers tomes. On note une grande évolution graphique, mais il s'amuse à faire des expériences en profitant d'être sur le web.
Mais je trouve que justement ces expériences sont intéressantes parce que ça pourrait montrer ce que deviendrait du webcomics ou
Ouais,
de
c'est
la
une des
BD sur le web.
possibilités. Alors, bon, on a
Oui,
déjà.
mais c'est une possibilité, je trouve, qui est assez intéressante parce que pour l'instant, c'est le premier que je vois les utiliser.
Ah bon, moi non, mais
Moi, si.
voilà, j'en ai vu un paquet avant. Scott McCloud en parle beaucoup dans Reinventing Comics. C'était les 2 minutes, je fais mon intello de la bande dessinée.
Tu le veux, ton tirage de tête dans la tête?
Non, pas mon tirage de tête. Et donc, il fait des tests, il s'amuse par exemple à rajouter un peu d'animation et de son. Il rajoute quelques couleurs sur certains éléments qu'il veut accentuer. Alors l'exemple classique, ça va être le sang. Là, on retrouve un peu ce qu'avait fait Frank Miller dans Sin City. Et il s'amuse aussi à mettre un peu des graphiques qui bougent. Enfin, il y a de la recherche à ce niveau-là. Alors c'est intéressant. Le truc qu'il y a, c'est que... Alors c'est un peu casse-gueule. C'est-à-dire que c'est bien amené parce que ça n'en fait pas des tonnes. Il n'y a pas que ça qui en jette, etc. Ça reste assez discret. Mais d'un autre côté, c'est pas non plus assez présent pour que ça ne choque pas quand ça arrive. Au fil de la lecture. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Donc, je trouve l'idée très intéressante. Par contre, autant la réserver peut-être à des moments clés et importants de l'histoire. Et puis ensuite, c'est vrai que c'est une BD qui aurait une édition papier intéressante, je trouve. Ça pourrait être sympa. Et là,
Je suis pas sûr.
ouais, t'es pas sûr que ça serait bien d'avoir
Si
un.
tu vois, par rapport à la discussion qu'on a déjà eue sur justement le format, enfin les nouveaux formats de bande dessinée, je pense que en t'orientant vers un truc comme ça, tu peux arriver à du format que online.
Online. Bon, après, le pauvre auteur est actuellement au RSA. Donc,
C'est une maladie grave.
ouais, c'est une maladie grave. Donc, en gros, bah, c'est vrai que ce serait bien qu'il trouve un moyen de gagner des sous avec son talent. Parce
Mais
que moi, je
surtout
trouve.
qu'il en a.
Voilà, parce que je trouve que ça vaut le coup. Franchement, c'est une BD très sympathique. Donc, n'hésitez pas à aller sur son site. Je vais laisser un lien. Et sa BD vaut le coup. Je n'ai qu'une envie, c'est d'avoir la suite. Parce que là, il nous a laissé à la fin, entre guillemets, de son premier tome. Avec le tintin, l'histoire va enfin avancer un grand coup, et ben non. Et ben non.
Ben si, il avait un second coup, mais il
Oui.
l'a pas encore fait.
Voilà, donc en gros, j'ai hâte de savoir ce que ça va donner par la suite, parce que bah, c'est très intéressant. Et une analyse géopolitique profonde et bien pensée.
Mais par contre, moi, un truc que je remarque, c'est que quelqu'un qui a du temps travaille la bande dessinée. Contrairement à d'autres personnes de notre connaissance qui ont du temps et
Oui.
qui prennent d'autres excuses. Mais bon.
Ne lance pas le débat, on en discutera hors ligne. Car nous avons fini cette émission. Alors, nous allons finir par le meilleur du mieux. Allez, si tu devais choisir un truc dont on a parlé là, aujourd'hui. Bon, sachant que t'as pas fini Cerebus.
Ultimate Avenger, tome 3.
Ouais, bon, là, c'est la
Ça
blague.
a vraiment été exceptionnel, un pur moment de bonheur, quelque chose qui est resté gravé dans ma mémoire
Ouais.
et qui s'est
Bon.
fini juste sur un tirage de toilette, c'est tout.
Voilà, on va virer de l'enfeuse de la sélection parce
Un tirage
que
de chasse, hein,
c'est
pardon.
un peu particulier. Voilà, donc qu'est-ce que tu as préféré de tes lectures là?
À l'hésitation, voilà, je donne mon hésitation, comme ça du coup ça me permet toujours un petit peu
Ouais.
de ménager la chèvre et le chou, je dirais Sculpt ou Cerebus.
Cérébus, faudrait que tu les finis, quoi.
C'est ça, voilà. Sinon, Sculpt, vraiment, je trouve que ça prend une bonne tournure. C'est prenant. Maintenant, bon, ça peut pas plaire à tout le monde, ça, je le conçois tout à fait. D'autres, je pense, vont s'éclater avec le tabouret.
Ouais, bah
Ce
moi
qui est
c'est plutôt
ton, toi, ce sera le
ouais, c'est
tabouret,
plutôt la fausse
voilà.
tabouret, voilà.
Mais bon, moi, déjà, je dirais Sculpt. Peut-être que quand j'aurai fini Cerebus, dans 15 jours, je vous dirai, non, franchement,
Voilà.
Cerebus, c'était trop exceptionnel.
Mais j'aurais dit peut-être Alphonse Tabouret, mais j'aurais hésité moi avec Cerebus aussi. Donc
Parce
parce
que tu l'as
que
fini.
oui, parce que je l'ai fini, voilà. Bon, bah c'était notre petite sélection. Nous arrêtons là pour cette quinzaine. Comme d'habitude, bah, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur iTunes et sur notre blog. Et sur Facebook, tout est disponible à partir du site blog.jeudepied.org. Vous pouvez me suivre sur Twitter en tapant en Twitter slash oneipied, sur Facebook, facebook.com/oneiclub. Laissez-nous des commentaires, dites qu'on est trop bien sur iTunes, ça nous donnera un peu de visibilité, ça nous évitera de rester dans le fin fond perdu au milieu de rien. Parce que nous manquons de reconnaissance et nous, si on fait ça, c'est pour être riche et célèbre. Mais je l'ai déjà dit. Non, on sera pas riche, on sera pas
Ouais,
célèbre.
tu
Oh.
toi, faut t'arrêter de lire Cerebus, hein.
Ouais.
Si tu veux lire Riche et
Aujourd'hui,
Victoire.
Cérébus, demain le monde!
Allez, Cortex, c'est
Merci
bon,
à vous!
vas-y.
À dans 15 jours, ciao
Ciao, ciao. Bonjour!